Tata boom! Bonjour, bonjour et bienvenue dans la 52e édition de Tatapoum. Tatapoum, une émission où on écoute, où on débat autour de l'actualité plus ou moins fraîche, des musiques brillantes, du punk, etc. On retrouvera ce soir le front populaire de la critique punk rock. D'ailleurs, certains autour de la table ont connu Léon Blum et Léo Lagrange. Et avec eux, nous partirons à Royal Thunder Bridge Well, à Hambourg, à Phoenix et quelques part dans la diagonale du vide, puisque ce soir nous parlerons de Softplay, de Kuchen, de The Shivers et de Colombet. On commence avec un extrait de Softplay et c'est Louise qui nous a sélectionné un premier extrait, c'est Punk's Dead. Ça, c'était le premier extrait de Softplay et c'est Héloïse qui nous en parle.
Connu sous le nom de Slaves jusqu'en 2022, Softplay est un duo de punk rock originaire de Royal Tunbridge Wells en Angleterre, composé d'Isaac Holman au chant et à la batterie et de Lawrence Vincent au chœur, à la guitare et à la basse. Après Are You Satisfied en 2015, Take Control en 2016 et Act of Fear and Love en 2018, il nous propose Evigeli, leur quatrième album, mais premier sous le nom de Softplay. Dans un écran hideux, représentant cet ignoble dessert aussi caricatural de la cuisine anglaise que gustativement dépourvu d'intérêt, Evigeli renferme un petit bijou de punk destroy et débridé qui vous caresse les oreilles à coups de batte de baseball. De la musique nerveuse, bruyante, tendue par l'urgence et jouée pied au plancher, biberonnée par l'influence de groupes tels qu'Idols ou System of a Down, qui oscille en permanence entre brutalité et humour décalé. D'un côté, le duo duo enchaîne une série de titres gonflés à la testostérone, l'un beuglant à s'en déchirer les poumons dans un élan hardcore, martelant ses fûts comme si sa propre vie en dépendait, tandis que l'autre nous assène ses riffs tapageurs, tranchants et acérés. De l'autre, ces deux-là parodient eux-mêmes l'aspect velu de leur musique, avec une imagerie queer tout en muscles, tatous et corps huilés sur les réseaux sociaux. Sur leur deuxième titre que l'on vient d'écouter, Punk is Dead, ils répondent aussi avec humour à leurs détracteurs par l'intermédiaire d'un guest improbable, Robbie Williams, lisant lui-même ses commentaires avant que le ouin-ouin d'un bébé parodiant les fans jamais contents ne vienne perturber le morceau. Ajoutez à cela la réplique sur Johnny Rotten, qui est devenu un admirateur de Donald Trump, et Softplay rhabille tout le monde pour l'hiver, livrant selon leur propre dips le disque le plus authentique de leur carrière. Il en résulte un album proprement incroyable, énervé pile comme il faut, sointant l'énergie, la dérision et la rage que je ne saurais que trop vous recommander d'écouter.
Eh bien, moi pas. La pochette, c'est, tu l'as dit, un gros gâteau de gelée vert. C'est luisant, copieux et pas du tout appétissant. Eh bien, ça résume assez bien l'écoute de Softplay. C'est lourd, un peu gluant et pas vraiment digeste. Trop bruyant, trop braillard, trop peu de nuances et surtout trop viriliste. Pourtant, vous me direz, ils tabassent leur batterie comme des bourrins, ils grattent leur guitare comme des bourrins, ils chantent comme des bourrins, ils crient comme des bourrins. Où est le problème ? Le problème, c'est que c'est vraiment trop bodybuildé comme musique. Ça sent l'EPO et les hormones de croissance. Le problème, c'est qu'ils mettent si peu de nuances, d'amour dans leur gâteau, ça va pas, il faut mettre quelque chose d'un peu délicat, sinon on a l'impression de manger à la cantine par des repas préparés par Sodexo. Moi je me dis que si on met un kilo de poivre, un kilo de sel, ok, ça peut avoir du goût à l'inverse, mais ça va pas être bon. Voilà mon problème avec Softplay, je vraiment pas du tout accroché. Guillaume.
Même écoute que toi, hein, j'ai trouvé ça excellentissime, comme on dit aujourd'hui. Un son très nord-américain, paradoxalement, puisqu'ils sont anglais. Des accents skate-punk n'en pas finir, se mélangeant à du hardcore et du grunge. Enfin, c'est vraiment très, très cafouillé comme style, mais ça fonctionne énormément bien, avec de la personnalité dans l'expression du chanteur, de l'énergie pour un simple duo, de la variété dans les compositions, différents styles enchaînés avec aisance et talent, et talentueux, voilà en fait le mot qui me qualifie, que j'utiliserais pour qualifier ce Softplay. Musicalement, c'est un régal, le son et les gimmicks, l'intonation de la voix, les chœurs, le tempo, tout séduit parfaitement et tout est parfaitement balancé. La production est au diapason, et je comprends que Bertelsmann, l'énorme label allemand, les ait signés alors que c'est leur premier album. Effectivement, ils avaient fait d'autres trucs avec Slave avant, mais c'est quand même leur premier album en tant que groupe. Et à l'écoute, on comprend vite qu'ils vont vite y trouver leur compte, tant le succès leur pend au nez. C'est un album puissant qui déménage, plaisant et agréable. De telles qualités réunies ne sont pas si courantes, et donc bravo, Softplay, j'adore.
Bon, ok. Arnaud.
Eh ben moi j'adore aussi, et il y a quelque chose que vous n'avez pas cité, donc qui m'a assez marqué. J'ai pensé en fait au groupe irlandais Fontaine D'ici dont on avait parlé à la dernière émission. Il y a pas beaucoup de points communs entre eux. On peut être que d'accord avec le titre Punk is Dead. Colle très bien ce que sont devenus les Irlandais, et pourtant il y a un point commun que j'ai qui m'a sauté à l'oreille. Le morceau que j'avais adoré dans le dernier album de Fontaine D'ici, notamment, je l'avais beaucoup apprécié pour le chant rappé du chanteur et l'influence hip-hop qui transparaissait. Alors c'était pas le cas sur les autres morceaux, mais ce chant rappé, on le retrouve sur pas mal de morceaux de Softplay. Je trouve que c'est absolument frappant dans le morceau Mirror Muscle, où à la place d'une batterie, on a limite une beatbox crade, lourde. Et t'as cité quelques références, Yves, mais moi, pensez à Sleep for Mods, à Rage ou à System of Down, qui avaient comme point commun d'aborder le chant sous cet angle rappé hip-hop. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Les autres morceaux qui sont un peu plus punk, enfin carrément punk même, parfois un peu moins bien. Je pense à Mushroom and the Swan ou le titre Act Violently qui fait aussi penser à du nord-américain Spring par exemple. mais c'est absolument super efficace et percutant. Et ouais, c'est ce côté, moi, l'influence du hip-hop actuel dans la musique. On parlait hors micro là de l'album de Kim Gordon qui aussi infuse dans le hip-hop, qui arrive à faire un pont entre électro-rock. Et je trouve plutôt intéressant de leur part de brasser autant de gens pour avoir un album qui arrive à avoir la percussion du hip-hop, notamment dans le phrasé. Je trouve que c'est vraiment ça qui, moi, m'a marqué à l'époque, à l'écoute de l'album, que je trouve absolument génial également.
Et Mathieu, même enthousiasme ?
Ben alors, il faut savoir que moi, j'étais fan de Slaves.
D'accord.
Donc, entre 2014 et 2018, je les ai vus une demi-douzaine de fois sur scène. Donc, je sais ce dont est capable le duo. Et Softplay, c'est vraiment un groupe qui est dans la continuité de Slaves. Et c'est en remontant même avant les albums que tu citais, Héloïse, on remonte à Sugar Beater Cut the Truth, le premier enregistrement, et qui était quand même assez... assez une claque dans la gueule comme arrivée dans le monde de la musique. Et le groupe, alors outre que les enregistrements sont très bons, les concerts c'était et intense, excitant, c'était vraiment des choses qu'on ne voulait pas manquer. C'est pour ça que j'hésitais pas à aller les voir, à aller loin, même en me rapprochant de la Belgique s'il fallait. Là, alors en fait, la différence, s'il doit y avoir une différence, c'est que Softplay, c'est un poil plus heavy et plus métallique que ne l'était Slaves, mais on retrouve tout ce qu'on pouvait aimer dans le groupe avec son ancien nom, y compris le chant d'Isaac, qui est quand même effectivement assez phénoménal. Cet album, c'est une franche réussite. Je suis content que le duo continue d'exister et vivement qu'ils viennent à Paris, parce qu'ils ne sont pas encore venus à Paris sous ce nom, en tout cas.
Eh bien, je vous propose d'écouter donc un deuxième extrait de Softplay, à voir avec Mirror Muscle.
Turning heads, Greek god no trident. And buys Tuesday chest and tries, Wednesday I'm hitting them legs, in the winter packing on size, by the summer I'll be shredded wheat, bare chested bones and meat. If you are what you eat, I'm an animal, cannibal lion, pumping iron, looking like Arnold, looking like Ronnie, looking like Rambo, but I'm not Johnny. Quick selfie, devil emoji, polyester looking all cozy, all Jackman, but I'm not Hugh, eating like Pac-Man, munching up food. It's broken season and there's a reason I'm looking bigger than you.
Voilà, Voilà, c'était un extrait de Soft Play et on va tout de suite écouter un autre groupe, c'est Kuken le groupe, et c'est Cédric qui nous a sélectionné un premier extrait, Out of the Water. Ben voilà, on vient d'écouter Kuken, et c'est Cédric qui nous en parle, mon petit Kuken.
Et oui, alors ça nous réveille, c'est formidable ce titre. Alors Kuken nous vient de Hambourg, hein. Jusque-là on pensait que Hambourg c'était d'abord la ville du club de foot St. Pauli. Mais depuis que ses supporters s'aventurent dans un soutien inconditionnel à Israël, maintenant on va dire que Hambourg c'est la ville de Kuken, quoi. C'est leur troisième album depuis 2015. L'album sort sur Alien Snatch Records, à qui on doit aussi l'excellent album pétillant des Alvilda, et puis pas mal d'autres choses qui valent le détour. Kuken, bon, qu'on peut traduire par poussin, donc là on voit pas trop bien le rapport, fait pas vraiment dans la fioriture. Les albums n'ont pas de véritable titre, hein, c'est 1, 2, 3, quoi, en gros. La pochette est assez classique, photo de groupe dans un décor de souterrain. Le trio guitare, basse, batterie classique, trois solides gaillards, dont deux frères jumeaux, les frères Paul, qui n'ont pas succombé à la malédiction des frères qui viennent de chez les prolos, qui font du rock et qui se mettent sur la gueule, comme les frères Davis, Gallagher, Red, ou encore les frères ennemis. Il paraît qu'il y en a un qui a mangé l'autre quand même. Le groupe ici, il vient pas de nulle part, hein, puisqu'il... ils étaient déjà de la partie dans les années, au début des années 2000, dans deux groupes garage punk de bonne facture, les Kidnappers et The High School Rockers, qui faisaient un garage un peu moins sec que ce qu'ils proposent ici sur Kuken. Alors, quand on dit pas de fioritures, c'est aussi un album sans gras, avec 11 titres qui oscillent entre 1 ou 2 minutes, le tout est emballé en 19 minutes. Le titre qu'on vient d'entendre est une exception, avec 2 minutes 25, c'est carrément une symphonie. C'est ça. Donc ce sont des titres un peu dans le sillage de Dead Kennedys à la sauce pré-punk du début des années 70. Ils mélangent ça avec un moment où la mélodie aussi comptait pas mal dans le rock. Et on l'aura compris, c'est pas l'invention du siècle, mais du siècle. Mais c'est une machine à tube punk qu'on écoute et qu'on goûte avec délectation. J'aurais pu mettre n'importe quel titre tellement c'est jouissif à mes yeux. Il n'y a pas besoin de 36 écoutes pour tomber dans la marmite. J'avais déjà vraiment adoré les deux précédents albums et je suis vraiment pas déçu du voyage sur celui-ci. Ça fait du bien par où ça passe, et surtout par les temps qui courent. En plus, ils proposent des prix assez corrects pour les vinyles, même assez bas. Donc en gros, pourquoi faire compliqué quand on peut faire une petite tuerie pareille, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est très sympa, mais c'est aussi un peu daté d'ailleurs la pochette dont tu parlais. On voit les trois gars dans un garage ou dans un métro sous un graffiti, et le graffiti s'écrit New York 1973. C'est peut-être une manière de nous dire qu'ils regardent quand même beaucoup en arrière. C'est un peu un album qu'on connaissait déjà, même si on l'avait pas encore entendu. Mais moi, je vais pas bouder mon plaisir. C'est vif, c'est énergique, c'est bruyant. Ils sont là où on les attend, mais ils déçoivent pas du tout. Ils récitent leur gamme punk rock à travers des morceaux ciselés, efficaces, presque tous assez courts, comme ça convient bien à ce type d'exercice. Et moi, Kuchen, là, les petits poussins, ça m'a fait penser à mon voyage scolaire en Allemagne lorsque j'étais en seconde. Ouais, j'ai fait allemand, première langue, Voice Ralph, Ralph is in the Kuchen. Et donc, je me souviens de Carola, de Elke, je me souviens de ce qu'on écoutait. C'était pas très loin de ça. Il y avait déjà une petite scène punk qu'on découvrait à l'époque. Et du coup, quand j'ai écouté Kuchen, je me suis dit, tiens, c'est un peu du punk traditionnel, quasiment un groupe folklorique, une sorte de Alan Stivell du punk allemand. Mais voilà, j'ai trouvé ça dans son jus, mais excessivement plaisant. Héloïse.
Je partage entièrement ton avis. Kuchen, c'est un groupe avec un nom de poussin qui nous propose un punk garage méchant, énergique, mais surtout très sombre, qui cause de ratés, de cimetières, de foutus et de problèmes existentiels. En un mot, triste à pleurer. 11 titres de garage punk ultra efficaces qui vous écrasent la gueule, vous donnent envie de dodeliner de la tête et de taper du pied. C'est pas très original, comme tu l'as souligné, Cédric, mais moi je trouve ça hyper bien fait.
Mathieu ?
Oui, mais c'est vrai que c'est pas souvent qu'on fait dans l'allemand à tatapoum. Hein. Moi, je dirais que c'est du garage propre. J'ai vu ça par rapport à The Anomalies dont on avait parlé lors de la dernière émission, avec un début d'album qui me fait presque penser au punk rock français des années 70, Starshooter par exemple, même si sur le reste de l'album ça évolue quand même. Je suis d'accord avec vous, c'est un bon album. Après, j'ai du mal à imaginer qu'on s'en souviendra dans quelques mois.
C'est possible. Arnaud, vas-tu t'en souvenir ?
Ouais, c'est un peu le classique de l'étape, le disque qui rassure nos auditeurs. Il y a des guitares, c'est du garage punk sans prétention, qui fait le boulot, on comprend assez vite à l'écoute. Et donc ouais, les premiers morceaux s'enchaînent, c'est pas plus réjouissant que ça, c'est bien fait. Mais bon, on sent très vite, d'ailleurs on l'entend ce soir, qu'on va pas le défoncer, voire même le complimenter, on l'a tous fait. Les morceaux courts, ça passe vite, ouais, l'écoute se passe tranquillement, moi j'écris ces quelques lignes. Et le sixième morceau arrive, c'est la moitié de l'album, c'est le morceau qu'on vient d'écouter là. Et là moi vraiment je tombe de ma chaise parce que je trouve que c'est un tube absolu. Et du coup, j'ai pas écouté après l'album de la même manière. J'ai sûrement été plus attentif à l'écoute, et je l'ai réécouté. Et en sachant que ce morceau allait arriver, en ayant sûrement l'oreille un peu plus affûtée, et je suis comme Cédric, j'ai trouvé que ça déchirait, et j'ai trouvé de la qualité à tous les morceaux que j'avais précédemment écoutés. Sticky, Cold, Off the Track, c'est des morceaux qui se bonifient à l'écoute. Alors, je ne sais pas si dans 6 mois. J'en retiendrai grand chose. En tout cas, ce tube là, le sixième morceau, je l'ai mis dans ma playlist d'écoute régulière, donc à coup sûr je l'écouterai encore dans quelques années.
Eh bien, je vous propose d'écouter un deuxième extrait de Kuchen avec Off the Track. We'll be right back. Et ben voilà, donc ça c'était Kuken, et maintenant on va découvrir l'album de Chivas, et c'est Mathieu qui nous a sélectionné un premier titre, ça s'appelle Toilette If Venus. Ben voilà, ça c'était donc Chives, et c'est Mathieu qui va nous présenter ce super album.
Voilà, l'album de The Chives s'appelle Soul for Institution. Il y a 11 titres, ça dure 23 minutes, donc là aussi on n'est pas dans, dans le progressif. Et avant de parler du groupe, je vais vous lire une appréciation qu'on trouve sur Bandcamp. Il y a un monsieur qui est très bien, qui indique que, selon lui, c'est le meilleur album de The Fall qui n'a pas été enregistré par The Fall dans les années 80 avec Marky Smith, que j'ai écouté toute la semaine dernière. Et effectivement, le premier titre qu'on vient d'entendre, moi ça me rappelle beaucoup un morceau comme Leave the Capitol. Et la suite des 23 minutes, pour moi, est à l'avenant. Alors je pense que Guillaume ne sera pas d'accord, mais pour l'instant il n'a pas le micro, donc j'en profite. L'album, il sort avec un double label, SDZ Records, label parisien, et Dot Dash Sounds, un label new-yorkais. Alors le groupe, il n'y a pas beaucoup d'informations sur lui. Je dois avouer que je peux essayer d'inventer des choses, mais alors je vais vous dire, le groupe, il semble exister depuis 2019, avec des membres qui ont joué dans pas mal de groupes a priori locaux, mais avec dans des genres différents. Il y a pas mal de groupes de hardcore, mais il y a aussi de la no wave ou du free jazz. Donc c'est des musiciens qui viennent d'univers assez divers. Et moi, je trouve assez surprenant de voir des Arizoniens s'inspirer autant de groupes anglais des années 78-82. Et la référence au Swell Maps, par exemple, elle est aussi assez importante. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est le retour du « c'était mieux avant » ou est-ce que, franchement, c'est une pause pour ces musiciens dans les musiques qu'ils jouent habituellement et qui sont bien plus violentes. J'ai du mal à le savoir, vu qu'on n'a pas d'infos sur ce groupe.
Héloïse.
Alors, c'est un disque dont j'ai adoré le concept, un peu moins la sonorité. Forcément, avec un descriptif au vitriol, l'album étant présenté comme une salve pour les institutions et plus largement une petite bombe sale, je cite, qui éclate à la face du pouvoir, il ne pouvait que susciter mon plus grand intérêt. Tel une enfant devant la vitrine d'une confiserie, je commençais déjà à saliver à la perspective d'écouter ce que j'anticipais être un petit brûlot musical dans un écrin subversif. La représentation sonore de ce pavé que l'on balance d'une barricade en direction des compagnies républicaines de sécurité dans un nuage de gaz lacrymogène. Las, il en faut plus qu'un concept pour faire un bon disque et dépasser la pochette de présentation. A Cell for Institution nous plonge dans un brouillard de sonorités lofi et psychédéliques, au sein de laquelle, à une voix lascive et en retrait, répondent des guitares crissantes et dissonantes. C'est pas mal le temps de quelques chansons et plutôt bien fait, mais force est de constater que c'est la peine à tenir la longueur.
Guillaume.
Oui, une des premières choses qu'on apprend lorsqu'on lit la petite présentation de l'album de Just Sheaves sur le Bandcamp du groupe, c'est qu'il est de fabrication artisanale. Était-il besoin de le préciser, tant les gars de Phoenix semblent délibérément cultiver un psychédélisme lo-fi convulsif et bouillonnant, où le son savamment cafouillé entretient la pose connue de l'artiste marginal et incompris, sinon incompréhensible. Une sorte de Soul Velvet Underground, mais pas trop velvet, plus underground de l'underground. Et effectivement, la suite de la lecture de la présentation liste leurs références, Swell Maps, The Fall, Half Japanese, Sebado, Built to Spill, Chrome et j'en passe. On comprend bien l'univers musical auquel ils se raccrochent. Ils témoignent du reste d'un excellent bon goût, puisque je le partage aussi, mais il n'est en rien garanti de réussite. Un peu comme celles qui se sont mis au saxophone après avoir écouté John Coltrane, ou d'autres qui se croient anticapitalistes parce qu'ils prônent le partage des richesses. The Sheaves baragouine plus qu'ils n'explorent les multiples influences dont ils se réclament. Il faut dire qu'il leur manque l'essentiel, le sens de la mélodie. À cultiver les marges, ils se perdent dans des circonvolutions sonores qui révèlent davantage du bruitisme que de l'enchantement pop. Je n'ai pas été un instant séduit par leur proposition.
Cédric.
Oui, ben je trouve aussi que c'est un album en demi-teinte. Je veux dire que ça démarre bien dans le registre des voix traînantes, marmonnées, cacophoniques, qui se superposent, hein, qui correspondent d'ailleurs pas nécessairement entre elles, et des guitares stridentes et répétitives. Je trouve que tout ça marche bien. Il y a certes un air de déjà très entendu, mais un peu plus déglingué, quoi. Je trouve que ça fonctionne notamment pas mal sur les deux premiers titres, celui qu'on vient d'écouter, Toilet of Venus et Center, que je trouve assez excellent. Ensuite, bah, je trouve que ça se gâte vraiment, par contre. Ça devient trop dissonant pour moi, avec une formule un peu lassante, voire à certains moments vraiment pénible, comme sur Dull RM, ou pire encore, BBC 3, par exemple. Un morceau très très moche, je trouve. Il y a une critique qui disait ça fonctionne un quart du temps, et je suis assez d'accord, quoi, sur cet album. Finalement, quand ça tire du côté du velvet déprimant, un peu plus sale, je trouve que ça va bien. Donc sur ces titres-là, ou encore sur Leisure, par exemple, c'est même assez génial, je trouve. Mais quand ça tombe dans une imitation de The Fall, c'est franchement moins bien, quoi, là, pour le coup.
Exactement.
Voilà. Donc bon, voilà. Mi figue, mi raisin, quoi.
Eh ben ouais, alors moi vraiment je trouvais que c'était un petit bijou post-punk, très DIY, comme tu disais, presque brutiste même parfois. Alors du coup on est tombé dessus aussi parce que c'était une découverte du label SDZ qui a coédité cet album, qui avait déjà sorti Silicon Values il y a quelques mois, vraiment un album sans sens. Et une fois de plus, je trouve leur choix assez audacieux et vraiment super. Et il y a ce son mat un peu étouffé, ça m'a fait penser aux cassettes audio bas de gamme qu'on avait avant, où le son était écrasé parce que la cassette. Et là ils en jouent, ils font un album autour de cet étouffement un peu du son, et c'est sur ça que ça se joue en grande partie, c'est créer un son pour créer un univers. Alors évidemment, vous l'avez dit, on pense par moments au Velvet, avec ses guitares sèches et un peu désarticulées. On trouvera certainement aussi un peu de Bob Dylan dans sa période acoustique et sa voix nasillarde qui est pas tout à fait posée. Il y a évidemment des trucs qui vont vers The Fall. Mais finalement, je trouve que tout ça a vraiment sa singularité. C'est finalement assez construit, et en même temps, c'est brinque-ballant, ça menace un peu de s'effondrer à tout moment, et puis non, ça marche, l'album se poursuit, et c'est peut-être cette fragilité qui rend ce groupe aussi touchant. Je trouve qu'il y a plein de trucs qui... On sait pas trop si le morceau a vraiment été abouti, si c'est un chantier qu'ils ont décidé de laisser en l'état pour le présenter comme ça, ou si c'est vraiment ce qu'ils voulaient faire. Moi, j'ai beaucoup écouté cet album, et au final, je trouve que ça, d'abord, il fonctionne comme un album, et je trouve qu'il y a une vraie élégance dans l'album de Sheaves. Je vous propose d'ailleurs d'en écouter un dernier extrait, c'est TV Tells Me. Et ben voilà, ça c'était donc un extrait de The Shivers, et tout de suite on écoute Colombet. Colombet dont Guillaume nous a sélectionné un premier extrait s'appelle Misérable. Ben voilà, c'était donc le premier extrait de Colombet dont nous parle Guillaume.
Ouais, Colombet. Colombet nous est déjà connu puisqu'on a déjà... On a débuté notre première émission de Tête à Poum en 2020 avec son précédent album, Au siècle dernier. Son unique membre, TG Gondard, a été mêlé à de nombreux autres groupes et collaborations et fréquente en fait le milieu musical francophone depuis la fin des années 90. Bueno, White, Altitude 1000, Monde Albertine, etc. Il a collaboré à de nombreux groupes. Je vous renvoie d'ailleurs à son site internet tggondard.com qui expose les multiplicités du parcours du bonhomme, riche et complexe. Toutefois, Colombet semble être son projet le plus personnel et intime. Et pour donc son quatrième album, il est allé chercher l'inspiration non plus dans sa Brie natale, mais dans une région encore plus déprimante s'il était possible, la banlieue flamande de Bruxelles, puisque les 8 morceaux qui composent La fenêtre sombre ont en effet été composés en 2021, entre 2021 et 2023 à Anderlecht. Tous les albums de Colombet, et celui-ci n'y échappe pas, s'assimilent à une sorte d'introspection personnelle sur son enfance, les lieux où il a grandi, l'existence qui lui fut faite, et les vies gâchées par la dureté de la société. Au fond, c'est un peu ça, Colombet, une remémoration, une déploration à n'en plus finir, qui tourne en rond à l'image de ces morceaux qui prennent tous l'aspect ressassant d'une longue ritournelle dont les maigres variations sonores d'un titre à l'autre ne font que transparaître le mal-être et la tristesse. Pour autant, n'est-ce pas là où s'exprime le meilleur de la scène rock française? Non pas tenter vainement de singer la musique anglo-saxonne, car la capacité française à comprendre la musique rock fut définitivement abîmée par la ravageante déferlante rock alternative des années 80-90, mais s'en départir et assumer un style en rupture complète avec elle. C'est ainsi qu'il faut saisir l'invariable lo-fi de chambre à coucher de Colombet avec son usage du vocodeur et ses beats faméliques comme une proposition transgressive et provocante par ses thèmes où il entretient avec constance l'imaginaire de poisseurs liés à la vie dans les communes paumées, la France des pavillons bouillis de merde comme il dit lui-même. Il se montre d'une part bien plus punk et radical que toute une lignée de groupes à pogo et d'autre part s'inscrit dans l'héritage de la scène minimaliste francophone qui va de Noël Nickel à Jean-Luc Le Ténéa, dont le dérisoire assumé et l'ironie mordante tranchent avec la pose rock. Par son style et ses thèmes, il y aurait tout à détester pourtant chez Colombet. Normalement, je me devrais de trouver ses albums insupportables, et pourtant j'y reviens toujours, et au fond de moi, je sais que Colombet est le meilleur de ce qu'on peut offrir de par ici.
Arnaud, même enthousiasme ?
Totalement, c'est un vrai supplice que tu nous imposes, Pierre, tous les 3 ans, à l'écoute du nouvel album de Colombet. Il n'y a pas de risque de se tromper sur la marchandise, c'est vraiment tout ce que j'aime, c'est atroce. Je veux dire que j'ai quand même souri, parce que c'est un peu moins dépressif que le précédent, à l'écoute des quelques paroles, si on arrive à tenir les quelques secondes du premier morceau. C'est un peu plus caustique et rigolo. Par contre, musicalement, c'est 8 plaies d'Égypte. Les orgues anciens, c'est horrible. C'est à se demander. Il a visiblement trouvé plein d'orgues anciens dans sa cave. Il les a remontés. Alors le clou du spectacle, c'est quand même l'utilisation du vocodeur. Je comprends pas comment c'est toujours pas interdit. Et ça oscille entre Chaton. Je sais pas si vous connaissez. C'est horrible. C'est atroce à écouter. Et Booba, ça s'entend un peu sur le morceau qu'on vient d'entendre. Je viens quand même de citer Chaton et Booba dans la même phrase, c'est déplorable. Non, bon, j'ai vraiment souffert et j'ai écouté l'album, hein, mais vraiment, j'ai eu beaucoup de mal et j'imagine quand même qu'il y a des fans. Bah, visiblement, Guillaume, t'en es un, Pierre, un deuxième, mais il doit pas en avoir beaucoup. Mais à force de l'écouter, il va continuer à faire de la musique. Ça fait depuis la fin des années 90 qu'il s'y met. On va toujours l'écouter si on va voir en concert. Alors, j'ai en effet cherché TJ Gondar là, sur Internet. Découvert qu'il avait d'autres projets, il a un projet électro qui s'appelle Pizza Noive Mafia. Moi qui écoute beaucoup de techno, c'est inécoutable également, c'est d'un bruitisme absolu. Et je suis tombé sur, c'est rigolo, un interview, alors un vieil interview de 2018, et il racontait qu'il était fan de la scène de Bristol électro, il avait été jouer, alors je sais pas si c'est Colombie ou Pizza Noise Mafia, j'ai pas réussi à retrouver, en Angleterre dans un festival. Et en fait, il joue en clôture du festival et il s'est retrouvé tout seul à la fin pour clôturer et tout le monde s'était barré. Il a joué devant un public vide. Donc quand même, le mec a de l'abnégation pour pouvoir continuer à faire de la musique. Rien que pour ça, je dis chapeau.
Ben ouais, chapeau. Mathieu.
Ouais, alors mais en fait Arnaud, t'as un peu déjà fait ma chronique, hein, puisque effectivement il faut que 10 secondes avant que l'insupportable Bantampine arrive et 10 secondes de plus et le chant vocodé arrive. Résultat, moi j'ai pas eu ton courage, c'est-à-dire que j'ai écouté le premier morceau intégralement. Et à partir de là, je faisais 10 secondes, parce que 35 minutes de Colombé, c'est insupportable. Alors moi, je veux bien que la vie à Colombé soit déprimante, hein, mais on n'est pas obligé de s'infliger une telle souffrance auditive. Et moi, j'ai cru entendre dire que cet album ne respecte pas les conventions de Genève, principalement par rapport à la torture des prisonniers, et il semblerait qu'à Guantanamo, il l'ait utilisé. Mais c'est des on-dit.
Ah là là. Non mais Colombey, moi je trouve que ça nous raconte le périurbain, ça nous raconte, c'est un peu la bande-son de la Diagonale du Vide. Colombey vient nous rappeler qu'il existe des espaces qui ne sont pas encore la campagne et plus vraiment la ville. Ces territoires dont on ne parle que lorsqu'on a des mouvements comme les Gilets jaunes qui se mobilisent ou quand, par exemple, on fait la cartographie du vote FN. La France moche, ou la Belgique moche, là si vous voulez, comme le disait Télérama avec un mépris de classe assez pénible. Là où on trouve les pavillons Bouygues de merde dont a déjà parlé Guillaume, Colombey en fait une bande son, un punk très lofi, parce que y a pas de guitare, ok, il y a pas de guitare électrique, mais simplement des vieux orgues. Mais pour moi, c'est vraiment un truc de punk. C'est on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et puis on fait comme on peut. Par exemple, si on chante pas juste, c'est pas grave, on met du vocodeur. Et si on chante vraiment pas juste, c'est pas grave, on met beaucoup de vocodeur. Et comme pour incarner un peu plus l'isolement, la solitude dont il parle dans ses textes, c'est un type tout seul qui fait ça. Alors il y a vraiment une économie de moyens dans son projet. Moi j'ai acheté son disque, hein, pour vous le dire, je l'ai payé 20€ et je pense que j'ai remboursé 50% des frais qui ont été engagés dans la production de son album, hein, rien qu'avec mon achat. Mais il y a dans ce minimalisme musical, dans ces paroles qui chroniquent des vies un peu étroites, hein, un peu loin de tout, quelque chose d'assez touchant. Parce qu'il y a eu dans son écriture, moi je trouve, une certaine poésie. Je dirais que c'est le périurbain de la poésie, quoi. D'ailleurs l'album commence avec ces vers que je trouve assez marrant, assez touchant. Il est 1000 heures du matin, pour dire la vie et l'ennui sans fin des nuits dans les endroits dont il nous parle. Voilà, en tout cas, depuis maintenant 4 albums, je trouve qu'il y a un vrai projet où chaque album avance, mais répond au précédent, d'incarner des territoires, une condition sociale à travers un son, une voix, cette voix gavée de vocodeurs qui redonne ses lettres de noblesse à une démarche punk pour essayer de dire des choses qu'on n'entend pas ailleurs. Cédric.
Pierre, il faut quand même qu'on te pose la question. Quand tu nous fais écouter un album qui est truffé de vocodeurs, de mélodies simplistes et j'en foutre, une boîte à rythme sans intérêt, une voix dénuée de tout charme et fausse, des textes moroses à la va comme je te pousse, tu t'attends à quoi, Pierre? En fait. Après 3 titres, on se dit, bon, il va falloir que je me fasse tout l'album. Et donc, j'ai poursuivi l'écoute, et je m'y suis fait. Je me suis dit, tiens, ça devient même assez beau, cette mélancolie qui dépeint ce quotidien des endroits dont vous avez parlé, quoi. Qui sont un peu compliqués, on va dire. Et puis, moi, j'y suis retourné, et j'ai écouté même plusieurs fois. C'est devenu entêtant, un peu comme un sparadrap dont on n'arrive pas vraiment à se séparer, quoi. Une sorte de mélange entre... on dirait Maria Violenza pour le côté des nappes accrocheuses. Arnaud, je te vois fumer par tous les trous. Philippe Catherine pour le côté autodérision. Ou le teignage, j'ai oublié son prénom. Jean-Luc, pas sur ce côté-là. Et puis ça m'a rappelé aussi beaucoup la série de BD de Jackie Berroyer, Les Goudards. C'est d'ailleurs proche du nom du gars, d'ailleurs. Pour le côté banal et triste dans la vie de petite ville de France, je sais plus quelle ville. Il racontait dans la BD, ça fait longtemps que j'ai plus lu, mais il y a vraiment un écho là-dessus. On voit bien qu'il n'y a rien qui va. Il y a quand même une petite interrogation, en gros, est-ce qu'il n'y a pas une forme de mise en scène de la misère, est-ce que c'est du lard ou du cochon, est-ce qu'il ne joue pas un peu avec ça, notamment dans les clips. Mais bon, on va lui laisser, en tout cas, la chance de ne pas être ça, d'être relativement sincère. Et puis, c'est un album dont j'arrive pas vraiment à me défaire. Je trouve assez sublime. Je conseille aussi de regarder cette interview assez lunaire du JT de France 3 Champagne-Ardenne. On va l'interroger parce qu'il parle de la région, en fait. Et ils font écouter l'album à des gens qui ne connaissaient évidemment pas et qui sont un peu surpris. Je ne cache pas que je pense pas que l'office de tourisme de Charleville, je pense pas qu'il utilise utilise comme instrument de promotion. Mais regardez ça sur son site, ça vaut le détour. Bref, un joli album, je trouve.
Eh bien, on va écouter un extrait de ce joli album, Colombet, le vieux CD. Ça, c'est du slow quand même. Hein. Il y a une ambiance terrible dans le studio. Il nous reste juste quelques minutes. On voulait en profiter pour passer un extrait d'une compilation No Sleep Till Palestine Is Free. C'est un label US qui s'appelle Girlsville qui a réuni une quinzaine de groupes de la scène punk, garage, tout ça, qui pour faire une compilation dont les bénéfices vont être reversés au Croissant Rouge
palestinien. Voilà, on trouve des groupes comme Biliam. Il y a le deuxième, il y a un titre de Pyrex qui est une tuerie sur cette compile. Voilà, donc c'est une petite initiative hein, d'un petit label, mais dans une période où on a un punk qui une scène rock et punk qui tend à se dépolitiser et qui participe de moins en moins à des trucs collectifs et engagés. Voilà, on est content de voir une initiative comme celle-là, aussi modeste soit-elle. Vous pouvez retrouver ça sur le Bandcamp, c'est le moyen le plus facile, le Bandcamp de Girlsville, le label, et on peut acheter la compile. Ils ont fait une cassette aussi. On vous propose c'est Bibi qui a sélectionné un titre, bah c'est le premier de la compile, et c'est Positive ID, Write My Name on the Wall.
Approche, Chico, attention, enclenche les rétrofusées.
Et ben voilà, c'était Tatapoum épisode 52 avec la fine fleur de la critique punk rock. On retrouvait ce soir autour des boutons, autour des micros, Arnaud, Cédric, Héloïse, Marion, Bibi, Guillaume et Mathieu. On se retrouve pour une prochaine édition de Tatapoum. Bon courage pour ce qui vous reste à supporter de dimanche. Ciao.